I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的
牧民男家都忙。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, donc cette émission que vous retrouvez sur France Culture tous les jours à 11h. Vous y retrouverez bien sûr la chronique d'Alexis Patovsev, ce sera tout à l'heure vers le mi-temps de l'émission. On poursuit notre série autour de l'industrie du sexe, sexe et porno, la fabrique des désirs. On commençait lundi avec l'industrie du porno, de Budapest à la Porn Valley, silence on tourne. Et puis hier, nous parlions des imaginaires érotiques du monde et en particulier au Japon. Demain, nous parlerons des enjeux du tourisme sexuel, mais aujourd'hui, donc, Indonésie, Chine, Égypte, cachez ce sexe que je ne saurais voir.
Les hommes égyptiens sont parmi les plus gros consommateurs de pornographie de la planète. Dans le palmarès du sexe, l'Égypte arrive en numéro 4.
L'usine de JB à Shenzhen, désormais, on y fabrique des sex toys. C'est plus tendance et plus rentable.
Nos produits sont partout dans le monde. On exporte dans plus de 50 pays. On fabrique plus de 180 marques et ils sont tous produits ici.
Est-ce que vos amis vous ont posé des questions embarrassantes sur votre travail ?
Non, pas vraiment. Des fois, ils me demandent : qu'est-ce que vous fabriquez dans cette usine ? Je leur réponds : notre usine fabrique des prothèses pour le corps. Voilà ce que je dis.
Indonesia's version of sex, lies and videotapes has captivated the nation for weeks. The singer, Nasril Ilham, alias Ariel Peter Pan, was arrested and charged with the newly adopted anti-porn bill, facing up to 12 years in prison.
L'Égypte. D'abord, l'Égypte, où la poussée salafiste a eu tendance à aggraver les agressions sexuelles faites aux femmes et où les hommes visionnent des films pornographiques amateurs pour combler leur frustration. La Chine, ensuite, qui, malgré sa loi anti-pornographie datant de l'avènement de la République populaire, est devenue un poids lourd dans la production de sextoy, on l'entendait dans cet extrait, un pays où, là aussi, les contenus porno sur le net se multiplient malgré leur interdiction. Et puis l'Indonésie, enfin, où Nasril Ilham Ariel, popstar du groupe Peter Pan, avait enfreint la loi anti-pornographie avec la diffusion de ses ébats sexuels sur le net. Il a été condamné à 3 ans de prison. 3 situations différentes, mais 3 pays où la censure sur les contenus pornographiques s'exerce à plein. En effet, hein, malgré l'abondance de films pornographiques sur le net, il est encore des pays où on peut être condamné à une peine de prison, plus ou moins sévère, pour avoir simplement regardé un film pornographique. Il en est de même d'ailleurs pour la possession de sextoys, alors que ce soit pour des raisons religieuses, comme dans certains pays musulmans, morales, politiques, le porno est encore tabou dans de nombreux coins du monde. On parlera aujourd'hui donc de l'Indonésie, dont la loi anti-porno de 2008 a souvent été interprétée comme un signe de salafisation du plus grand pays musulman du monde. Et puis l'Asie, toujours. Nous nous rendrons aussi donc en Chine, où la censure du porno existe depuis 1949 et elle permet de contrôler la toile en muselant l'opposition. Et puis enfin, on ira du côté de l'Égypte, où l'arrivée au pouvoir des frères musulmans a entraîné un regain de critiques de ces vidéos immorales de la part des plus pieux. Là-bas aussi, on discute de lois pour pouvoir censurer l'accès aux sites porno, autant de lois décriées dans le contexte révolutionnaire où chacun veille au bon respect des libertés individuelles retrouvées. Alors où est-ce qu'on censure ce porno ? Pour quelles raisons ? Quelles sont les stratégies aussi de contournement qui sont mises en œuvre par les consommateurs ? Quelle est la place du porno amateur en Chine, en Égypte ? Quel est le rapport entre liberté individuelle et libre accès à la pornographie ? Voilà un certain nombre des questions qui seront les nôtres ce matin. Pour en parler notamment, et en particulier pour évoquer ce cas indonésien, ici avec nous en plateau, André Feillard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne, vous êtes chargée de recherche au CNRS, vous êtes une spécialiste de l'Indonésie. Vous aviez écrit un livre, c'était en 2006, La fin de l'innocence, l'islam indonésien face à la tentation radicale de 1967 à nos jours. Vous l'aviez coécrit avec Rémi Madinier. On va évoquer avec vous ce cas indonésien et puis on ira tout à l'heure avec Catherine Jacobs et Paul Morera pour parler respectivement de la Chine et de l'Égypte. Mais d'abord, l'Indonésie. Alors, il faut rappeler quand même quelques éléments. D'abord, presque 250 millions d'habitants, 244 millions d'habitants. Un pays multiethnique, pays multiconfessionnel. Si on regarde le dernier recensement officiel qui avait eu lieu en 2000, 86,1% de la population professait l'islam, ce qui est en fait tout simplement le plus grand pays musulman au monde, le plus éloigné de la Mecque aussi, vous expliquez dans un article. Suharto, rappelons-le, il est resté au pouvoir de 1967 justement à 1998. Il a tenu quand même le pays, on peut le dire, d'une main de fer. Et puis il y a eu la crise financière en 1997 qui avait rendu le contexte économique, le contexte social, le contexte politique aussi extrêmement difficile. On se souvient de mai 98 où les manifestations s'étaient un peu multipliées dans tout le pays, notamment dans le milieu étudiant, bien sûr, qui s'affrontaient régulièrement avec les forces de l'ordre. Tout cela, au fond, s'inscrit quand même dans un contexte un peu plus large, une longue chaîne de violences qui avait quand même commencé avant la fin du régime de Suharto. Mais ce qui est sûr, pour évoquer André Feillard, notre problématique du jour, c'est que à mesure que ce pays s'est ouvert depuis 1998, l'accès au contenu pornographique s'est fait de plus en plus facile, d'abord via la presse spécialisée, la presse érotique, la presse pornographique, et puis ensuite via Internet. Aujourd'hui, les Indonésiens sont de gros consommateurs de contenu pornographique.
Je ne sais pas à quel rang se situe l'Indonésie dans la consommation de produits pornographiques, mais il est évident qu'aujourd'hui, mais même déjà avant la chute de Suharto, la pornographie commençait à se développer, puisque la loi anti-pornographie dont on parlera après a vu le jour, en fait, juste avant la chute de Suharto. Enfin, un projet était déjà en cours. Donc aujourd'hui, en effet, Internet a amplifié la diffusion du matériel pornographique, beaucoup à travers les portables, les téléphones portables. Si vous voulez, pour vous donner un peu une image, un gardien de parking, il y a 5 ans, écoutait pour se divertir de la musique populaire du Dangdut, d'inspiration indienne, très sexy, très rythmée. Et aujourd'hui, il a réussi à se procurer des films pornographiques qu'il regarde en attendant les voitures. Et ça, il l'a pris par un petit balayeur à côté qui travaille dans le bureau des petits fonctionnaires du marché.
Est-ce que c'est très répandu dans l'administration publique?
Je ne dirais pas que c'est très répandu, mais en tout cas, l'administration
relativement
publique...
Relativement répandu.
Il y a un accès à Internet facile mais un peu partout. Hein. Il y a aussi des cafés Internet, mais aujourd'hui, il y a moins de cafés Internet aujourd'hui qu'il y a quelques années, parce que tout le monde aujourd'hui a un accès Internet, même sur son téléphone. C'est quelque chose de très répandu. Donc on est vraiment dans une autre Indonésie par rapport à l'Indonésie de Suharto il y a 14 ans.
Si je m'en réfère à votre petit exemple de ce gardien de parking qui s'est procuré via le balayeur du coin des vidéos porno, ça veut dire qu'il y a aussi une forme de commerce un peu illégal dans l'ombre comme ça de contenu.
Oui, bien sûr. Bon, ça sera
ça se revend, enfin c'est.
Oui, mais ça se revend bien sûr, mais à très bas niveau, hein. Donc et ça peut être aussi bon. Déjà, il y a une libéralisation de la presse totale en Indonésie. Ça veut dire que la presse islamiste aussi a été libérée. Tout a été libéré. Donc il y a eu, par exemple, les chauffeurs de bus à un moment lisaient un quotidien qui était très prisé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un tout petit feuilleton pornographique en bas de la page, à droite. Alors tout le monde s'imaginait que tout le monde commençait à lire, c'était extraordinaire, tout le monde commençait à lire la presse, etc. Mais non, c'était en fin de compte ce petit feuilleton qui faisait fureur à Java Central, en tout cas.
Alors cette loi anti-pornographie, celle de 2008, d'abord vous me disiez, le projet de loi date de l'époque Suharto.
Oui,
donc
apparemment.
Ça a mis longtemps à aboutir.
Voilà, en fait. Il y aurait eu déjà une vague idée de projet de loi, mais en tout cas, le projet de loi tel qu'il a été, la loi telle qu'elle a été votée en 2008, ce projet, en fin de compte, datait de 2006. Et alors, il ne faut pas croire que ce sont des partis islamistes qui l'ont proposé. C'est un parti, l'ancien parti du gouvernement Suharto, le Golkar, qui a proposé ce projet de loi. Pourquoi ? Parce que il y a c'est une norme sociale qui est en train de changer. Il y a une moralisation de la vie publique. Bon, face à cette amplification du phénomène de la pornographie, il y a certainement une réaction de la population et aussi de la part des partis politiques une volonté de présenter une image plus pieuse, plus morale, disons. Alors, la grande question en Indonésie, après Suharto, comme avant Suharto, c'est la corruption. C'est le phénomène de la corruption. Mais toutes ces problématiques de société, elles sont assez faciles à gérer, si vous voulez, avec des lois à droite à gauche. Et donc, ce qui est très intéressant dans la loi anti-pornographie, donc, qui a été votée en 2008, c'est de voir le contexte dans lequel elle a été votée. En 2008, en novembre 2008, le gouvernement du président actuel, Susilo Bambang Yudhoyono, devait exécuter les terroristes, les poseurs de bombes de Bali.
De l'attentat de Bali.
Voilà, vous vous souvenez, en 2002, octobre 2002, plusieurs attentats à Bali, 202 morts, beaucoup d'étrangers. Et donc, les trois responsables de ces attentats ont été exécutés exactement au moment où la loi est passée, où la loi a été votée. Donc, on a dit à cette époque-là que c'était un petit peu un gage que le président donnait à l'islam, qu'il ne fallait pas trop en faire trop état, en tout cas.
D'autant que, je fais une petite parenthèse, d'autant que la loi a été votée très vite.
Absolument. Bon, il y a eu quand même de longues discussions de 2006 à 2008, puisque, c'est tout à fait intéressant, les démocrates laïcs se sont opposés à ce projet de loi. Alors pourquoi ? Non pas parce qu'ils étaient pour la pornographie, bien entendu. En tout cas, c'est ce qu'on leur a dit. Puisque vous êtes contre la loi, ça veut dire que vous êtes pour la pornographie.
Oui,
donc ils ont beaucoup, beaucoup de mal à se défendre. Mais ils ont eu avec eux quand même, et ça c'est intéressant, beaucoup de théologiennes, des femmes de l'islam, alors qu'on appelle traditionnaliste, mais qui s'est beaucoup libéralisé sous l'influence d'intellectuels musulmans indonésiens qui ont eu une grande portée pendant les 20 dernières années. Et donc, ce sont ces féministes qui se sont battues le plus ardemment contre le projet de loi.
On va revenir sur ces mouvements féministes parce qu'en effet, c'est extrêmement important, très central dans cette question-là. Mais quand même, dites-nous ce que dit très précisément cette loi de 2008.
Alors, le projet de loi aller bien plus loin que la loi de 2008. Le projet de loi interdisait carrément tout ce qui pouvait éveiller la libido, c'est-à-dire en poésie, en peinture, donc les milieux artistiques, ce sont
les poèmes, la danse,
voilà, tout, absolument tout. Et bon, il faut se souvenir que l'Indonésie, ça n'est pas que l'islam. Vous l'avez dit, c'est aussi l'île de Bali où on porte des vêtements beaucoup plus plus léger, en tout cas, qu'à Java ou ailleurs, ou à Aceh. Et puis, ce sont aussi des régions dominantes chrétiennes. Mais la population en général a pris assez mal ce projet de loi, parce qu'il était vraiment excessif. Donc, il y a eu vraiment une opposition avec des grandes manifestations contre le projet de loi. Et puis, finalement, j'avais interviewé quelques parlementaires. C'était beaucoup des femmes qui s'étaient opposées à ce projet de loi, puisque bon, elles étaient les premières concernées, puisque c'était le vêtement féminin, naturellement, qui était visé.
Oui, c'est pas seulement une interdiction à la presse érotique, au contenu vidéo, c'est évidemment une atteinte aussi aux libertés individuelles des femmes, puisqu'il fallait, en gros, on contrôlait, on codifiait les tenues vestimentaires aussi des femmes.
Voilà, c'est-à-dire que la loi était tellement vaguement définie, le concept de pornographie était tellement vague qu'en fin de compte, la loi pouvait faire interdire n'importe quoi. Et bon, par exemple, la Majelis Mujahideen, le Conseil des Mujahideen indonésiens, avait dit, mais enfin, ne vous en faites pas, les statues à Bali, les statues qui sont dénudées à Bali, eh bien, on leur mettra des vêtements. Voilà, on est arrivé dans des débats assez étonnants. Mais ce que la plupart des gens, en tout cas, même les hommes, ne pouvaient plus porter de shorts dans le projet de loi, enfin bon, donc le projet a été ridiculisé de toutes parts.
Alors, qu'est-ce qu'il en restait de ce projet ?
Alors, ce qu'il en reste problématique, justement, parce que pour deux choses. Et les féministes ont continué à s'opposer à ce projet avec les démocrates libéraux pour deux choses. L'un, c'est que désormais, ce qui est condamné, ce qui est interdit, c'est ce qui peut donner une impression de nudité. Donc, non seulement la nudité, on ne peut pas représenter la nudité, mais on ne peut pas représenter ce qui pourrait donner une impression de nudité. Alors, ce concept est tellement vague qu'on s'est dit, mais n'importe quoi peut rentrer dans cette définition. Et le deuxième point, c'est que la loi invitait la société civile à collaborer avec l'État dans l'éradication de la pornographie. Alors là,
ça veut dire qu'on autorisait au fond les milices islamistes éventuellement à faire appliquer cette loi.
Voilà, ça, en tout cas, ça pouvait être interprété de la sorte. Ouais. En tout cas, cela donnait une légitimité aux milices islamistes qui ont pourri la vie de l'Indonésie depuis la chute de Suharto, depuis 99, 98, 99. Donc, ces milices islamistes que les démocrates rejettent, que les intellectuels musulmans libéraux rejettent aussi, puisque ces musulmans intellectuels libéraux sont aussi visés par ces milices. Lorsque il y a par exemple des manifestations en faveur du pluralisme religieux, eh bien ce sont ces milices qui viennent, qui ont déjà attaqué les musulmans intellectuels libéraux. Donc, vous voyez, c'était quand même assez mal vu dans les cercles démocrates de voir qu'en fin de compte, ces milices islamistes pouvaient ressortir renforcées après cette loi. Et c'est un peu ce qui est arrivé, puisque aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est par exemple des jeunes femmes accusées d'être actrices dans des films pornographiques venir pleurer pour s'expliquer devant le chef des milices du Front des défenseurs de l'islam. Donc il y a une légitimité accrue de ces milices, ça c'est absolument indéniable.
Cette voix que vous entendez là derrière, André Feillard, vous l'avez reconnue, c'est celle de la chanteuse Inoul Daratista, dont la danse, fait de mouvements particulièrement déhanchés, avait un peu provoqué la colère des oulimas. Cette femme qui chante justement du Dangdut, qui est une musique pop un peu dérivée, une dérivée lointaine des gambous, jouant les airs du désert du Sahara. Hein.
C'est une inspiration indienne avec des musiques donc très rythmées et surtout accompagnée d'un déhanché. Franchement assez sexy et avec tout un, il y a tout un le vêtement aussi, enfin c'est une danse de par réputation très très sexy et très appréciée dans tous les milieux populaires.
Oui, très appréciée par certains. Voilà. En tout cas, ces danses et ces vêtements étaient assez moyennement appréciés par les oulémas qui avaient interdit carrément la diffusion de ces clips. Enfin, d'ailleurs, toute la société civile avait pris sa défense.
Oui, certains oulémas, je ne dirais pas tous les oulémas, parce que bon, les oulémas sont divisés. Hein. Les plus conservateurs, en effet, avaient un problème avec Inoul. Et en fin de compte, elle a été défendue aussi par un ouléma très libéral, Gousmous, un javanais qui a dit qu'il fallait arrêter absolument tout ce procès qu'on attendait à Inoul, qu'elle faisait partie du patrimoine national et qu'il n'y avait absolument aucun problème.
Et d'ailleurs, elle chante et elle danse aujourd'hui.
Absolument, oui.
Parlons de ces mouvements féministes, André Feillard. Quel fut justement leur positionnement par rapport à cette loi anti-porno de 2008 ? Et est-ce qu'il y avait des différences entre, alors là je vais utiliser une formule qui parfois ne plaît pas, mais entre, disons, un féminisme séculier, un féminisme laïque et puis un féminisme musulman ? Parce que là encore, vous disiez les oulémas sont divisés, mais c'est vrai aussi pour les mouvements féministes.
Oui, pour une fois en tout cas, on a eu sur cette loi-là, une entente totale entre les féministes laïques et les féministes musulmanes. je dirais, libérales. Hein. Libérales, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elles étaient contre l'atteinte aux libertés individuelles. Elles disaient, ces féministes musulmanes disaient, cette loi ne sert à rien, nous avons d'autres moyens de lutter contre la pornographie. Et ces féministes aussi avaient très peur de l'islam radical. Bon, vous allez me demander, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ces féministes portent le voile, donc elles sont elles-mêmes voilées. Donc elles avaient un problème avec ces milices radicales, puisque ce sont elles, si vous voulez, et c'est cet islam radical qui milite pour des causes qu'elles ne partagent absolument pas, dont par exemple la polygamie. Ce sont des musulmanes
autorisées en Indonésie aujourd'hui.
Oui, sous conditions bien strictes. Hein.
Mais ce qui n'était pas le cas, ça c'est une des lois qui est relativement récente.
Non. Ça a toujours été le cas. D'accord. Depuis 1974. D'accord. Il y a des conditions à cette polygamie, mais elle s'est banalisée quelque part depuis à peu près 10 ans. Avant, c'était quelque chose qu'on n'avouait pas. Quand on était polygame, on se moquait d'un polygame il y a 20 ans. Aujourd'hui, on s'affiche polygame, surtout des artistes, etc. Alors, ça ne veut pas dire que la polygamie est populaire dans les milieux féminins, absolument pas. Mais en tout cas, il y a eu un basculement, en tout cas, en faveur de la polygamie. En tout cas, ces femmes, je dirais que entre musulmanes, il y a les féministes laïques. Hein, qui n'ont pas de référent religieux, qui n'utilisent pas de référent religieux, mais qui parlent plutôt des droits de l'homme. Il y a les musulmanes libérales qui, elles, utilisent le référent religieux pour une interprétation plus libérale des textes du Coran, des traditions prophétiques. Et puis, à l'autre bout, les islamistes, elles, qui sont très conservatrices et qui ont milité pour la loi anti-pornographie, pour la polygamie, etc. Donc, vous voyez, on a une division des... Alors, moi, les plus radicales, les plus conservatrices, je ne les appellerai pas des féministes. Mais en tout cas, bon, ce sont des femmes qui militent et qui ont un discours qui est pratiquement calqué sur celui des hommes.
Qu'est-ce qui a fait que, finalement, ces mouvements féministes n'ont pas réussi à venir à bout de cette loi et que cette loi a fini par passer quand même? Alors qu'il y avait un soutien, on comprend, assez fort de la société.
Alors bon, il y a une chose quand même, c'est que la pornographie n'est pas populaire. La moyenne indonésienne s'inquiète de la diffusion de la pornographie. Mais deuxième point qui est très intéressant, c'est que les féministes qui se sont battues contre ce projet de loi n'ont eu avec elles, en fin de course, qu'un seul parti, le PDIP, le Parti démocratique laïque, de tradition soukarnoïste. Et tandis que les partis dits séculiers, c'est-à-dire le Golkar, le Parti démocrate, etc., tous ces grands partis dits séculiers, n'ont pas voté avec le Parti démocratique. Ils ont voté pour le projet de loi. Alors pourquoi ces partis dits séculiers ont voté pour le projet de loi anti-pornographie? Eh bien, tout simplement, m'ont-elles dit, par lassitude, parce que bon, il fallait bien faire des concessions à l'islam, il fallait bien faire des concessions à la moralisation de la vie publique, etc. On ne pouvait pas paraître non plus trop anti-musulman. Donc, ce sont des stratégies électorales et parfois, tout simplement, au sein de ces commissions parlementaires, ceux qui gagnent sont souvent ceux qui tapent les plus militants,
qui ne sont pas forcément les majoritaires.
Voilà, les plus militants. Et là, bon, les partis dits séculiers, Golkar, Parti démocrate, etc., ont fini par céder.
On laissait faire.
Et donc, le Parti démocratique indonésien soukarnoïste était minoritaire. Donc, la loi est passée avec le parti, non seulement des partis séculiers, mais aussi le soutien des partis musulmans dits modérés, qui eux-mêmes hésitaient un peu entre, quand même, la pornographie, il fallait bien faire quelque chose. Et donc, la loi est passée malgré tout ce militantisme de 2 ans contre le projet.
Toujours avec vous, André Feillard, on parle de l'Indonésie, mais on va aller chez un voisin, on va aller du côté de la Chine. C'est avec cette très jolie voix d'une musique extraite d'une série chinoise, The Legend of Xixi, dont l'héroïne incarne l'une des quatre beautés de la Chine antique, qu'on va aller du côté de la Chine. La Chine où officiellement, en tout cas, les contenus pornographiques sont interdits là-bas aussi, même si aujourd'hui également, eh bien, ces contenus circulent, notamment sur Internet évidemment, mais pas seulement, on distribue aussi des films dans des petites boutiques discrètes. On va retrouver Catherine Jacobs, qui est chercheure en médias numériques et sexualité à l'université chinoise de Hong Kong. Pauline Listen, de l'équipe de Culture Monde, lui a demandé quelle était aujourd'hui la position officielle des autorités par rapport à cette question de la pornographie. Elle nous répond.
Officially, since 1949, pornography is actually banned in China.
Officiellement, la pornographie est interdite en Chine depuis 1949. La décision a été prise par ceux qui ont fondé la République communiste. Ils ont aussi mis en place un contrôle très strict de toute la littérature vulgaire ou obscène. Donc l'interdiction est ancienne et elle n'a jamais été modifiée. Du coup, leur législation sur la pornographie est vraiment dépassée. En même temps, beaucoup de gens contournent la loi et recherchent d'autres moyens pour trouver de la pornographie ou pour la partager en ligne. Le système est hypocrite. D'un côté, c'est officiellement interdit, mais en réalité, il existe aujourd'hui en Chine une industrie pornographique très active. C'est le sujet de mon livre, cette mentalité à deux faces. Ce que certains universitaires ont appelé la confusion, la double mentalité. D'une part, on a cette morale démodée qui interdit aux gens d'aller vers des médias sexuellement explicites. Et d'autre part, cette morale est ignorée parce que l'industrie est florissante. Ça se passe principalement sur Internet. On trouve toutes sortes de sites illégaux qui distribuent des films japonais. Les vendeurs chinois achètent beaucoup de produits japonais pour les revendre aux Chinois. Ils ajoutent leur propre style de sous-titres. C'est plus facile de vendre en ligne ces films de contrebande avec ces sous-titres. C'est moins risqué pour eux. Mais il arrive aussi à vendre ces produits dans la rue. Ce ne sont pas de vraies boutiques, comme les sex shops, mais ce sont par exemple de petites cabines, ou alors des gens qui ont une voiture dans laquelle ils ont un vaste choix de films. Donc on peut en trouver. En général, les marchands à la sauvette abordent les clients. Si vous êtes une femme et que vous vous promenez seule, ils vous laisseront probablement tranquille. Mais si vous êtes un jeune homme, les vendeurs vont venir vous parler, vous montrer leurs produits. C'est comme ça que ça fonctionne.
Qu'est-ce que vous entendez par la pornographie du peuple et quelles sont les motivations des gens qui tournent ces films amateurs en Chine ?
Ce titre a deux significations. D'abord, en Chine, le mot « peuple » a beaucoup d'usages. On le trouve dans les noms de nombreux parcs et bâtiments. J'ai utilisé l'expression « la pornographie du peuple » en référence à la Chine. Le livre parle de la pornographie du peuple chinois. Ensuite, je voulais montrer qu'en Chine, les gens ordinaires se sont réappropriés l'obscénité et la pornographie. Ils l'utilisent, ils l'achètent en ligne et dans la rue, et ils se livrent à de nouvelles activités comme les vidéos amateurs. C'est pareil partout au monde. Des gens tournent et téléchargent leurs propres vidéos. La Chine fait aussi partie de ce vaste mouvement. Ça aussi, c'est la pornographie du peuple. La pornographie à réaliser soi-même, c'est une façon encore plus active de sexualiser votre vie. C'est très controversé partout au monde, mais surtout en Chine, où le déni et l'interdiction de la pornographie en général sont très forts. Mon titre montre que les Chinois peuvent se réapproprier la pornographie et l'érotisme en explorant ces nouvelles tendances. J'espère aussi que le gouvernement et les politiques chinois vont commencer à comprendre que les lois sont dépassées, qu'il y a un mouvement mondial en marche et qu'on ne peut plus l'arrêter.
Catherine Jacobs, en quoi cette interdiction du porno a-t-elle entraîné une généralisation du porno amateur en Chine ?
Bien sûr, la pornographie peut recouvrir beaucoup de choses. Est-ce réellement de la pornographie ? C'est en effet très différent de la pornographie commerciale. C'est parfois plus artistique, plus soft, par exemple. Les jeunes s'intéressent aux films d'animation pornographique qui viennent du Japon. Ce ne sont pas des productions hardcore, mais plutôt des histoires d'amour, de sexualité, des gens qui se courent après. Pour les Chinois, c'est une façon de découvrir l'érotisme et la sexualité explicite, mais c'est très soft. Il y a aussi des jeunes qui vont plus loin. Ils filment leurs ébats dans des saunas, par exemple, ou même en classe, avec leurs ordinateurs portables. Ils ont une manière désinvolte de faire l'amour, de se filmer et de télécharger leurs vidéos. Parfois, les films ne restent sur Internet que quelques jours ou quelques semaines. Ensuite, ils sont supprimés. Parfois, le blog lui-même est interdit. Mais c'est une façon pour les gens de partager une ambiance sexuelle. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas tourner de la vraie pornographie ou de la pornographie plus sérieuse, c'est que c'est tout simplement impossible. Ce serait très dangereux. Grâce à Internet, on peut se lancer dans d'autres styles de pornographie et d'érotisme moins risqués. Ce n'est pas une véritable industrie commerciale.
Catherine Jacobs, finalement, quels seraient les liens entre la lutte pour un accès libre au porno et la lutte pour la liberté d'expression en Chine ?
Pour moi, ces deux combats sont liés, oui. Les gens ont besoin d'exprimer leur sexualité, ce qui est un aspect très important de la liberté d'expression. Vous pourriez dire que vous n'avez pas besoin de la pornographie pour exprimer votre sexualité. Mais dans la pornographie, les gens trouvent beaucoup d'exemples positifs, des modèles. Donc l'accès à la pornographie ou le fait que les gens puissent s'identifier de manière positive aux sextoys fait partie de la liberté d'expression. La liberté d'expression est peut-être un sujet plus important que la pornographie, mais comme je l'ai déjà dit, sur Internet, les gens s'expriment de toutes sortes de façons sexuellement. Et je m'intéresse à cette définition élargie de la pornographie. Tous ces niveaux d'expression sexuelle, en ligne ou sur téléphone portable, sont encore très contrôlés en Chine, où toutes les communications sont contrôlées et censurées. Le gouvernement comprend que s'il continue à censurer la pornographie, c'est pour surveiller l'ensemble du mouvement pour la liberté d'expression. Les deux luttes sont donc étroitement liées en ce moment, en particulier en Chine. Je ne sais pas quand nous verrons un grand changement.
Voilà, donc Catherine Jacobs, chercheure en médias numériques et sexualité à l'Université chinoise de Hong Kong, au micro de Pauline Blisten. Retour ici en studio avec vous, André Feillard. Réaction sur cette Chine avec à la fois une loi anti-pornographique et puis une industrie du porno absolument florissante. Il y a, nous disait Catherine Jacobs, une confusion, une double posture au fond qu'on retrouve aussi du côté de l'Indonésie, André Feillard.
Oui, tout à fait. Cette fameuse double mentalité. Par exemple, le ministre de l'Information, qui est Tifatul Sembiring, le chef du parti islamiste, disons islamiste modéré. Hein. Il ne prône pas l'application directe de la charia, mais il la défend en tout cas. Eh bien, au moment même où il proposait justement la fermeture des sites pornographiques au Parlement, en pleine session plénière, des journalistes ont pris sur le vif sur en flagrant délit un député de ce même parti islamiste en train de visionner un film pornographique. Donc ça a fait un grand scandale.
Oui.
Voilà. Donc on a beaucoup parlé de l'hypocrisie du parti islamiste, etc. Donc vous voyez, c'est une arme à double tranchant parce que la presse étant très libre, elle découvre beaucoup de cette hypocrisie. Bon, là maintenant, on a un grand scandale de corruption qui vise ce même parti islamiste. Donc cet accent sur la vertu, sur la piété, elle a son coût aussi, disons.
André Feillard, pardon, toujours avec vous aujourd'hui sur cette question de l'accès au porno, à la question de la censure. On va vous retrouver dans quelques instants. Le temps pour nous de retrouver notre ami Alexis Patostef et sa chronique Frontières. Il est 11h passé de 36 minutes, on est un petit peu en retard. On va retrouver dans quelques instants notre ami Alexis Patostef et sa chronique Frontières. Alexis qui ce matin a choisi de nous parler de la voix VOX du temps. Écoutez.
Ce mélange d'horloges parlantes, je ne l'ai pas fait moi-même. Il s'agit d'un collage que l'on trouve sur le disque dont on peut fêter le 30e anniversaire, Dazzle Ships, du groupe Orchestral Maneuvers in the Dark. Quelle jolie illustration du passage du temps à travers les frontières. Certains associent le passage du temps avec le silence. Pour les autres, le temps a un son. Le grand poète Ossip Mandelstam, au contraire, parlait du bruit du temps. Le temps coulait dans les horloges à eau. Le temps chuchotait dans les sabliers. Le temps sonnait avec les cloches des églises. Mais au XXe siècle, le temps a fini par obtenir une voix. D'abord, la voix d'une opératrice téléphonique qui vous donnait l'heure, et puis la voix enregistrée de l'horloge parlante. Elle a fait sa première apparition il y a exactement 80 ans, en février 1933. Son père est Ernest Esclangon, astronome et mathématicien français, directeur de l'Observatoire de Paris. Mais sa mère est la technique du film parlant. La machine était constituée d'un cylindre portant trois ensembles des bandes des films parlants. Le premier pour l'énoncé des heures, le deuxième pour celui des minutes, le troisième correspondant à 10, 20, 30, 40 secondes, puis à l'annonce, au quatrième top, il sera exactement... L'ensemble était couplé à l'horloge de l'Observatoire de Paris. La première voix de l'horloge parlante était celle de l'animateur de Radio Paris, Marcel Laporte, dit Radio Lolo. Puis en 1954, c'est une comédienne, Hélène Garraud, qui a enregistré une nouvelle version de la voix du temps. Puis c'est un postier, Henri Thiolière, qui a pris la relève en 1965. À partir de 1991, on a visiblement décidé en France de se battre contre les discriminations basées sur le sexe dans le domaine si hautement important que celui des voix du temps. En appelant le 3699, on entendait désormais en alternance une femme, Sylvie Baird, et un homme.
At the third stroke, it will be 8:57 precisely.
At the third stroke, it will be 11:25 precisely.
At the third stroke, it will be 9:59:20.
Je n'arrive pas à savoir à qui appartient la voix de l'horloge parlante française actuelle. La presse hexagonale ne s'intéresse pas trop, visiblement, à la voix de Chronos. En revanche, outre-Manche, fin décembre, chaque quotidien national a fait un long hommage à un comédien qui vient de disparaître. Il s'agissait de Brian Cobby, la voix de l'horloge parlante britannique entre 1985 et 2007. Il n'était ni le seul, ni le plus ancien parmi les animateurs de l'horloge parlante britannique, mais il était le seul homme. Quand, en 1985, au bout d'une longue compétition entre 5000 candidats potentiels, il se retrouvait en compagnie de seulement 11 personnes, toutes féminines, pour le dernier tour de la sélection, il a prononcé une phrase devenue célèbre. « J'espère que le jury va choisir une horloge parlante avec une pendule ». Pour la première fois, Chronos parlait désormais avec la voix que les Britanniques imaginaient en regardant les statues de ce dieu grec. Le père de Brian Kobe a dû beaucoup voyager à travers le royaume. Donc, Brian n'a pas eu le temps d'absorber un quelconque accent local. En atout, quand vous postulez pour être la voix universelle du temps. Il avait une voix shakespearienne, disent les uns. Il avait une voix chaleureuse, disent les autres, surtout les femmes âgées et seules. Elles ont été très nombreuses à passer des nuits, insomniaques, au téléphone, en train d'écouter cette voix du temps si réconfortante. Elles ne savaient probablement pas qu'il n'était pas physiquement à l'autre bout de la ligne. Brian Kobe a enregistré les 86 mots du vocabulaire de l'horloge en une seule prise de 50 minutes. Et puis, on s'est aperçu que le producteur avait oublié de noter parmi les mots enregistrés le mot essentiel, « o'clock ». Il a donc fallu y retourner le lendemain. C'était en 1985. Mais Brian Kobe aimait aussi s'écouter. Pour chaque nouvel an, peu avant minuit, il passait un coup de fil à Kronos et trinquait ensuite avec lui en écoutant sa propre voix de 1985 annoncer l'arrivée d'une nouvelle année. La presse britannique pleure donc l'une des voix de Kronos qui n'est plus. Je me demande si le même hommage national aurait été possible à la candidate qui a perdu lors de la finale face à Kobe. La pauvre dame a eu en guise de lot de consolation l'honneur de devenir cette voix qui vous informe sèchement le numéro que vous avez composé n'est pas attribué.
La voix du temps par Alexis Ipatov-Steff. Sa chronique, on peut bien sûr la retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez écouter, réécouter Culture Monde et toutes les émissions de France Culture. Culture Monde cette semaine autour de l'industrie du sexe, sexe et porno, la fabrique des désirs. Et aujourd'hui en particulier la question de l'accès au porno, la question de la censure. On est avec André Feillard sur l'Indonésie. On va aller du côté de l'Égypte maintenant. On va retrouver Paul Morera dans un instant, l'Égypte où ces dernières semaines eh bien, les députés salafistes font pression pour garantir le blocage des sites pornographiques. En Tunisie, on trouve un peu la même dynamique. C'est assez troublant dans la mesure où on sait qu'il existe évidemment toujours des moyens de contourner cette censure et que par ailleurs, on peut trouver de plus en plus des images de femmes extrêmement dénudées dans les clips qui tournent sur les chaînes accessibles par beaucoup, et en parallèle à ça, évidemment aussi des contenus pornographiques qui se multiplient, des films, disons, amateurs dont raffolent les Égyptiens. On retrouve tout de suite Paul Morera. Bonjour Paul Morera.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes avec, vous êtes donc journaliste, hein, vous travaillez pour une agence de presse que vous aviez créée, vous, Première Ligne, et vous êtes auteur d'un documentaire, c'est ce qui nous intéresse ce matin, intitulé « Sexe salafiste et printemps arabe » qui avait été diffusé sur Canal+ en décembre dernier. Vous êtes allé donc en Égypte, mais aussi du côté de la Tunisie, pour voir au fond si... Eh bien, les révolutions avaient fait diminuer un petit peu la violence à l'égard des femmes, s'il avait fait reculer la frustration sexuelle des hommes, et vous avez rencontré alors plein de monde, notamment par exemple un jeune homme qui est étudiant en mathématiques qui vous explique que les hommes de 25, 30, voire 40 ans, souvent, il n'est pas rare en tout cas qu'ils soient encore vierges. Il vous fait comprendre comment depuis la plus tendre enfance, on explique aux jeunes que c'est absolument interdit d'avoir une relation sexuelle avec une personne de sexe opposé. Et ce qui a comme effet assez direct, c'est que ça a engendré beaucoup d'agressivité chez ces hommes. Il y a une véritable frénésie sexuelle qui est en train de s'accentuer de plus en plus, Paul Morera. C'est ce que vous avez constaté.
Oui, c'est eux qui le disent, évidemment. Tout ça, je le découvre en rencontrant des gens, en parlant, en gagnant la confiance. Parce qu'on est dans un espace intime, c'est un peu difficile d'en parler. Et c'est vrai que quand on s'intéresse un peu profondément à cette question-là, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on sait, c'est-à-dire le harcèlement sexuel et les agressions multiples contre les femmes. Et puis, il y a l'immense frustration des hommes, parce qu'en gros, c'est des pays où, si vous n'êtes pas marié, l'accès au sexe, c'est quasiment... Enfin, il est possible, mais dans des conditions extrêmement précaires. On ne peut pas aller dans un hôtel, on ne peut pas... Enfin, vous voyez, on ne peut pas aller chez ses parents parce que c'est interdit. On ne peut même pas aller chez des copains parce que les voisins sont capables de frapper aux portes pour vous sortir de là et de vous jeter dans la rue. Donc, c'est quelque chose d'inimaginable, hein. Quand on vit en Europe, mais donc eux, ils sont dans un état de frustration immense. Et sur cette frustration immense, atterrit un peu le carburant de la pornographie Internet, qui en fait démultiplie la frustration.
Avec un décalage absolument abyssal dans la manière d'appréhender ce phénomène-là. Évidemment, du côté des femmes, il s'agit de toute façon d'agression sexuelle, alors que pour les hommes, c'est tout simplement, au fond, de la drague. C'est un mot qu'ils utilisent très souvent. Comment Paul Moreira, la police répond-elle à ce phénomène? Vous filmez à un moment une séquence, il y a une séquence dans le métro où il y a une jeune femme qui vient de se faire agresser, qui se rend au commissariat pour porter plainte. Racontez-nous comment ça se passe avec les policiers qui sont censés recueillir sa plainte.
Oui, alors bon, d'abord il faut dire qu'on a eu de la chance, si on peut dire, puisqu'on traînait beaucoup dans le métro, on savait que c'était surtout là que ça se passait. En même temps, il ne fallait pas, on n'avait évidemment aucune autorisation de tournage, et les Égyptiens sont extrêmement chatouilleux et paranoïaques sur les étrangers qui filment, surtout sur cette question-là. Donc à un moment donné, a surgi cette jeune femme qui venait d'être agressée sexuellement par deux jeunes types, et déterminée, elle se rend au poste de police du métro. Il y avait deux policiers qui étaient sur le quai, donc qui prennent les harceleurs et qui les emmènent au poste de police. Et là, on a réussi à introduire un appareil audio à l'intérieur du poste de police et on a pu recueillir en fait ce qui se passait. Et c'était hallucinant parce que les policiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que la jeune femme renonce à porter plainte. Donc c'était incroyable parce que cette jeune femme, une 22 ans, entourée d'hommes, une quinzaine d'hommes dans ce poste, des policiers, les harceleurs qui étaient debout, elle était la seule assise, tournée autour, certains utilisaient la menace, d'autres essayaient de l'amadouer, enfin, et un seul but, c'est qu'elle ne porte pas plainte. À la fin, elle éclate en larmes, elle comprend qu'ils refusent de relever sa plainte, et donc elle quitte le commissariat sans avoir pu porter plainte avec sa colère intacte, quoi. Donc il y a dans la société égyptienne une véritable négation de ce phénomène-là.
Et les agresseurs repartent tranquillement, ils ne seront pas inquiétés. Il y a un mouvement, Paul Moreira aussi, qui prend de l'ampleur aujourd'hui en Égypte, c'est celui pour l'excision. Alors même que ça avait été interdit en 2008, aujourd'hui d'ailleurs c'est, Paul Moreira, la journée mondiale contre l'excision. Quels sont les arguments aujourd'hui des salafistes que vous avez rencontrés pour remettre, j'allais dire, au goût du jour cette excision? Comment est-ce qu'ils justifient l'acte? Et puis est-ce qu'on pourrait voir, au fond, refaire son apparition? Est-ce qu'on va peut-être assister au vote d'une loi, Paul Moreira?
Alors, d'abord, pour quand même quelques éléments de contexte. Donc, les agressions sexuelles sur les femmes, ça existait avant la Révolution. Ça n'a pas diminué, au contraire, malheureusement, mais ça existait bien avant la Révolution. Et l'excision, qui est une pratique très ancienne dans cette région-là de l'Afrique, pas forcément liée à l'islam, d'ailleurs.
Oui, qui se faisait bien avant l'islam.
Elle a été interdite qu'en 2008. Qui est extraordinaire. Jusqu'en 2008, l'excision est légale. On rappelle que l'excision, c'est couper le clitoris d'une petite fille. Donc, à force de combat des féministes égyptiennes, la femme de Moubarak prend cette cause pour eux et fait voter une loi en 2008. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques députés salafistes du parti El Nour. Les frères musulmans, c'est moins clair, mais du parti El Nour, qui représente quand même 27% du corps électoral, qui ont émis l'hypothèse que peut-être ça serait bien de décriminaliser l'excision. La société résiste, faut quand même le dire, quoi. Donc on est dans un phénomène un peu où il y a les durs, les salafistes, qui poussent à décriminaliser l'excision en disant non, mais pour des raisons médicales. Alors, je fais interview d'un député salafiste, je dis mais quelle raison médicale? Elle me dit, mais pour raison psychologique, par exemple, ça peut être gênant d'avoir un trop grand clitoris, des raisons. Enfin, ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, ils n'invoquent plus les raisons religieuses, ils invoquent des raisons médicales, ce qui au moins a le mérite de montrer que ça a un peu progressé de ce côté-là, même si c'est dérisoire et amer, mais c'est le cas. Donc pour l'instant, c'est pas tranché, mais c'est pas décidé, on va dire, ça n'a pas été voté, donc il reste un espace de bagarre et de négociation pour les féministes égyptiennes. Mais le fond de l'histoire, c'est que malheureusement, une partie de la société a continué à pratiquer l'excision après la loi, hein, parce que il y avait une loi, mais personne évidemment allait vérifier ce qui se faisait. Parce que c'est une sorte de tradition rurale, une sorte de bienséance, France, c'est les propres mères de famille qui amènent les filles se faire exciser. Donc il y a cette... le combat va au-delà du combat contre l'obscurantisme salafiste, je pense.
Merci beaucoup, Paul Morera, d'avoir été avec nous ce matin. La liaison n'est pas très bonne, mais en tout cas, un grand merci. Et puis pour les auditeurs qui voudraient revoir à nouveau votre documentaire, son titre « Sexe salafiste et printemps arabe ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis un grand merci à vous également, André Feillard, de nous avoir un peu éclairé sur cette question de la loi anti-porno du côté de l'Indonésie. Peut-être ce qu'on peut dire en guise de conclusion, André Feillard, c'est qu'au-delà de cette loi, il y a toute une norme sociale qui est en train de s'imposer aujourd'hui en Indonésie.
Oui, absolument. Je pense que les textes ont eu leur importance à un moment. On ne parle peu de la loi anti-pornographie aujourd'hui, mais une norme sociale s'impose. Et là, comme elle s'est imposée aussi pour le voile, qui est de plus en plus courant en Indonésie, donc je pense que c'est vraiment la norme sociale qui est fondamentale dans ce phénomène.
Merci beaucoup André Feillard d'avoir été avec nous ce matin et puis merci également à toute l'équipe de Culture Monde, Lucille Como, Pauline Blisten, Antoine Dulster, Salomé Vio, à la technique Jean-Guy Lamèche, à la réalisation Doria Zénine. Dans un instant sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Caroline Brouet, mais avant de la retrouver, c'est la microfiction. Vous êtes sur France Culture, il est 11h passé de 51 minutes. Excellente journée sur les ondes de France Culture et à demain.